Elle prend la parole. Nous avons quelques instants avant que les représentants du SSAC arrivent. Je peux demander à l'Australie de nous décrire brièvement les points clés sur les alertes précoces. Pour ne pas entrer dans un débat, mais pour savoir comment allons-nous continuer pour inclure quelque chose dans notre communiqué. L'Australie. Merci, Heather. La première chose que je tiens à signaler, c'est que suite à nos débats de samedi et dimanche, j'ai essayé d'organiser, de rédiger un texte pour inclure dans le communiqué que je vais faire circuler dans le GAC. Premièrement, on a traité le besoin des protections qui sont incluses dans le guide de candidature, mais nous croyons aussi qu'il y a un rôle spécifique mentionné dans le guide, un rôle du GAC. On nous a donné toute la liste des candidatures et nous ne travaillons pas dans le développement de nouvelles politiques. Ce que nous pouvons faire, c'est de donner notre avis et nous pouvons dire vis-à-vis des candidatures que par rapport à ce qui a trait aux activités de l'ICANN incluses dans le guide de candidature, il existe quelque chose de supplémentaire que l'on puisse faire. À un moment donné, dans la première partie, je l'ai donc rédigé en ayant ça à l'esprit. On a analysé plus tard plusieurs aspects spécifiques et je voudrais savoir si tout est inclus. Au fur et à mesure de la rédaction, j'ai consulté avec plusieurs personnes. Je sais qu'il y en a qui pensent qu'il devrait y avoir plus de contenu, plus d'explications, plus de fondements dans certains domaines. Et avant de rédiger la version finale, j'aimerais vous envoyer la version préliminaire pour recevoir votre avis. Pour ce qui est des délais, j'ai mentionné certains points. Pour parler avec Heather, parce que je sais que la date limite, c'est le 16 novembre, mais je sais qu'il faut bien savoir quelles sont les périodes dans lesquelles nous travaillons. Troisièmement, j'ai essayé de travailler sur un point qui avait du consensus dans la salle. Nous allons faire quelque chose par rapport aux candidatures ou suivre les alertes précoces, ceci a trait aux candidats, pour dire que nous allons faire les deux choses. Nous allons émettre une alerte précoce sur une chaîne spécifique. Et nous souhaitons que cela soit vraiment clair. Dans la version préliminaire que j'ai fait circuler, cela est inclus, mais peut-être ceci pourrait être inclus dans le communiqué ou dans le modèle que nous allons faire circuler. Je n'ai vraiment pas de solution spécifique pour ce point-là. La manière donc d'indiquer ou de montrer la différence entre une alerte précoce qui vient d'un pays ou de plusieurs pays, ou bien d'un pays, et il y a d'autres pays qui peut-être auront des intérêts pas si spécifiques à propos de la candidature. Ceci a été débattu dimanche dernier. Il faudrait donc décider comment on va donc émettre ce document pour que le GAC et les candidats aient une vision claire. Donc, si l'Australie va émettre une alerte précoce sur une chaîne de caractère spécifique, le candidat, on va demander au candidat ou on va lui demander de prendre contact avec l'Australie et de démarrer une négociation concernant les préoccupations de l'Australie, la manière de les aborder. S'il existe d'autres pays intéressés dans ce même domaine, n'ayant pas émis d'alerte précoce. Si le candidat va convaincre l'Australie qu'il va entreprendre une action de correction acceptable pour les deux parties, les autres pays ayant des intérêts mais n'ayant pas émis d'alerte précoce, il faudrait savoir ce qui va se passer avec les préoccupations de ces pays-là. Je crois qu'il faut penser à cette question. Et je dirais que pour démarrer le débat, il serait utile que les pays ayant des préoccupations importantes dans un domaine, que ces pays émettent l'alerte précoce afin de savoir avec qui il faudra entreprendre des dialogues. Voilà mon point de vue, parce que sinon, ce n'est pas clair quelle est la position du GAC si l'on arrive à l'étape du Conseil. Il ne faut pas considérer l'avis lorsqu'on n'a pas donné l'opportunité au candidat de faire un changement. Voilà donc une question sur laquelle il faut débattre. Il faut avoir une plus grande clarté par rapport à ce processus. Heather, merci l'Australie. Voici une description du processus et des sujets tels que nous les comprenons. Nous venons de recevoir la copie en support papier, ce qui va nous aider à être plus concrets dans notre débat pour savoir quelles sont les questions à aborder et ce qui doit être inclus dans le communiqué. Le Brésil. Je suis d'accord avec le représentant d'Australie, notamment pour ce qui est de la possibilité des alertes précoces, afin de refléter l'intérêt non seulement d'un pays, mais d'un groupe de pays, parce que je trouve que dans certains cas, cela peut venir de régions géographiques appartenant non seulement à un pays, mais à un groupe de pays. Et dans ce cas-là, il doit être clair quel sera le processus. Il ne s'agit pas seulement du soutien d'un pays quelconque à un autre pays déterminé, mais il s'agit d'une alerte précoce qui surgit d'un groupe de pays. Heather, merci le Brésil. Le Royaume-Uni prend la parole. Bonjour à tous. Merci l'Australie de l'effort réalisé, l'effort de voir ou d'évaluer tout ce que nous avons soulevé dans les discussions. Mon premier commentaire est le suivant. Je voudrais suggérer de donner un exemple du premier point ayant trait au marché régulé, tel que je l'ai déjà mentionné. Il y a beaucoup de travail qui est réalisé et il y a beaucoup d'anxiété au Royaume-Uni vis-à-vis des candidatures liées au secteur financier, le secteur de la santé et les organisations de bénévoles. Il faut considérer, pour peaufiner le texte, peut-être nous devrions simplifier le premier point pour que le Conseil puisse se concentrer là-dessus. Deuxièmement, le deuxième point, je ne sais pas si nous avons suffisamment débattu la question. Le troisième point qui dit minimiser le besoin des enregistrements défensifs, je crois que cela pourrait indiquer que nous avons pris note d'une proposition spécifique dans ce domaine-là. Et je crois que cela vient de melbourne.it. Ce sont des exemples qui peuvent nous aider pour stimuler la discussion. Je crois que ce que l'on pourrait faire, c'est de mettre dans le texte que ces propositions existent et même d'autres propositions. Dans le cinquième point, Ceci a trait notamment ou tout particulièrement à l'amélioration des droits de protection vis-à-vis des GTLD, la protection des droits ayant trait au secteur de droits d'auteur, point musique, point vidéo, point film, comme vous le savez. Voici donc mes suggestions initiales pour aller un peu plus dans les détails. Le travail a été très utile. Merci, Royaume-Uni. Dit la présidente. Quelqu'un demande la parole. Un autre orateur prend la parole. Merci, Madame la présidente. Je vais parler en chinois. Pour ce qui est du GTLD de Taïwan, j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, l'éligibilité qui est déjà définie dans le guide de candidature. S'il existe un changement là-dessus, et ceci a trait avec la justice, avec l'équité, c'est-à-dire s'il faut inclure des changements, il faut tenir compte qu'il doit exister une appropriation de l'éligibilité. Je crois que nous devons revenir au guide de candidature et faire un changement en accord avec ce que je viens de dire. Deuxièmement, Fadi a mentionné hier dans son discours que tous ceux ayant participé des GTLD et j'espère que l'ICANN puisse donner suffisamment de flexibilité pour que les gens puissent participer et exprimer leurs préoccupations. Merci. Heather, je crois que nous allons donc arrêter ce débat temporairement et dès que nous trouverons un peu de temps, nous allons continuer avec le débat. Maintenant, nous avons une présentation du Comité Conseil de la Sécurité et la Sécurité de l'ICANN, le comité consultatif, pardon. Patrick Falstam va nous en parler. Nous avons des questions à traiter dans l'ordre du jour. L'un de ces vous avez reçu sans doute un document du SSAC. Si vous ne l'avez pas, vous la demandez à Ginny, s'il vous plaît. Je passe maintenant la parole à Patrick. Patrick, merci Heather. Et merci à tous les membres du GAC de leur invitation. J'ai à ma droite Jim Galvin, le vice-président. Et puis, il y a d'autres membres qui vont arriver parce que nous venons d'une autre réunion. Comme vous le savez bien, nous devons aller et venir dans tout le bâtiment. En premier lieu, je vais vous donner un aperçu général des activités, surtout des activités réalisées en 2012. Et puis, je vais parler de trois domaines différents. Premièrement, ce qui a trait au domaine 100 points, ce qui est inclus dans la copie imprimée que vous avez reçue après l'impact et le blocage du DNS. Nous allons faire cela dans un ordre qui puisse être intéressant pour vous. Si nous n'arrivons pas à tout compléter pendant la réunion, nous allons vous laisser la présentation en PPT et pour répondre à vos questions en ligne, le cas échéant. Ce comité, le SSAC, a été formé entre 2001 et 2002, alors ça fait 10 ans qu'il est en fonctionnement. Nous donnons l'avis au conseil d'administration ainsi qu'aux organisations de soutien et au comité consultatif, à la communauté en général. Nous, en tant que comité conseil, nous agissons comme vous au sein du GAC. Nous donnons notre avis à la communauté, au conseil de l'ICANN sur des questions relatives à la sécurité et à l'intégrité des noms et des allocations de noms de domaines sur Internet. Nous avons 38 membres et en 2010, nous avons fait un changement par rapport aux nominations. Et de manière explicite, nous avons commencé à désigner des candidats pour des cycles de 3 ans. Donc, tous les candidats ont un mandat de 3 ans. Comme vous pouvez voir, nous avons entre 4 ou 5 membres et nous sommes environ 35 personnes en tout à l'ESSAC. Les activités de 2012 sont les suivantes. Nous avons un comité de membres permanents, à savoir ceux qui révisent un tiers de ESSAC, qui est celui qui va se renouveler. Puis, il va y avoir de nouveaux membres potentiels à qui on donne des recommandations pour son approbation. Il y a une autre partie, à savoir la validation des données d'enregistrement. Tout cela est en rapport avec les différentes utilisations du QIS que l'on débat au sein de l'ICANN. Nous avons un autre groupe de travail qui s'est réuni ce matin, qui va identifier les paramètres des abus et qui a trait à différents types d'abus pouvant avoir lieu. Il y a des gens d'autres forums qui appellent spam ou d'autres types de courriers électroniques, bon, le pourriel, etc. C'est des abus. Et on essaie d'établir les paramètres que l'on peut utiliser pour mesurer justement cet abus. Cela a trait évidemment avec la coordination entre les différentes entités qui recueillent des statistiques du trafic Internet en ce moment. Nous avons un groupe qui regarde le développement de la clé de racine. Ceci a trait aux clés du DNSSEC dans la zone racine. Nous avons participé, ou moi je participe plutôt, dans des groupes entre des regroupements et le programme de DNSSEC. Nous avons un comité du programme de DNSSEC qui a aussi sa réunion pour les nouveaux venus. Et demain, il va y avoir un atelier sur DNSSEC pour ceux qui seront intéressés. Nous participons du groupe de travail DSSA qui a émis l'un des rapports. Nous avons aussi participé de forums dans le groupe de travail de cadre de gestion des risques du DNSSEC. Nous menons aussi des activités régulières avec les organismes d'application de la loi. Nous donnons des avis à différentes organisations, différents comités consultatifs, et nous nous réunissons avec d'autres groupes communautaires au fur et à mesure qu'ils le demandent. Avec la communauté, pendant les réunions de l'ICANN et entre les réunions de l'ICANN, nous avons fait des sessions dans le forum de gouvernance Internet qui va avoir lieu à Azerbaïdjan. Les publications de cette année jusqu'à présent sont plus nombreuses que dans d'autres années. Là, j'ai plus d'une diapo à vous montrer et nous sommes très heureux parce que nous avons produit ces 7 rapports que vous pouvez voir ici, l'un d'eux, a trait à l'impact du blocage de contenu. Vous l'avez ici. Il a été publié vendredi dernier. Il y a aussi un rapport sur la révision du QIS, un rapport sur le domaine sans point, le modèle de date d'enregistrement de nom de domaine, l'avis sur la délégation de DNS à un seul caractère et aussi le commentaire sur le budget pour l'exercice 2013 de l'ICANN et quel peut être la feuille de route pour mettre en place le SAC 051. Nous avons produit beaucoup de textes et nous avons un groupe qui évalue les paramètres pour mesurer le succès du SSA lui-même. À ce jour, nous ne savons pas, nous savons ni la quantité de mots ni la quantité de documents. Ce que nous mesurons, c'est ce qui est vraiment utile pour la communauté. Vos commentaires sont essentiels pour savoir ce que nous aurions dû écrire, mais comment nous allons rédiger nos prochains documents. Vous, le GAC, vous nous avez dit que, bien sûr, vous n'êtes pas technique dans votre communauté, que nous ne pouvons pas écrire dans un langage trop technique. Nous avons donc besoin de faire des vérifications et des productions, non seulement en ce qui concerne les documents les plus importants dans d'autres langues, mais le langage à utiliser doit être facile à comprendre, doit être plus clair.
De façon à nous assurer que les...
So let me start there and see whether anyone have any generic questions about ESSAC. And in that case, yes, there is a question down there.
Merci Patrick pour cette mise à jour. C'est la présidente qui prend la parole. Je vois qu'il y a des commentaires par rapport au rapport du SSAC. Et à partir de ces commentaires publics, on voit qu'il y a des inquiétudes par rapport au domaine sans points. Le représentant ne s'identifie pas. Patrick prend la parole. Je tiens à expliquer ce rapport et dans quelle partie du processus nous sommes. Et par la suite, je vais vous demander si vous avez d'autres questions à me poser. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons donc passer au rapport. Diapo suivante, s'il vous plaît. Une question qui a été souvent posée il y a un an et demi, adressée à un grand nombre de personnes dans la communauté technique et le SSAC, c'était la suivante. Si j'enregistre point quelque chose, je peux utiliser l'étiquette point quelque chose dans une adresse email ou par exemple en tant qu'utilisateur arrobase quelque chose. Qu'est-ce qui se passe si je fais cela? Et c'est ça qu'appelle un nom de domaine qui consiste en une étiquette unique, un domaine sans point. Sans point. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ce point de notre travail a été pris en charge par ESSAC. ESSAC s'est focalisé sur ce point. Ce n'est pas qu'il y a eu une question formelle qui est venue à partir des documents sur le blocage. Il y a tellement de questions par rapport à cela que nous nous sommes penchés sur cette question. Parce qu'il y en avait qui disaient que ça fonctionnait, d'autres qui disaient que ça ne fonctionnait pas. Et donc, c'est pour ça que nous nous sommes penchés sur cette question. Prochaine diapo. De façon très générale, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que la résolution des noms de domaine sans point et ce qui se passerait lorsque les gens s'en servent n'est pas cohérente ni universelle, n'est pas la même partout et n'est pas universelle, car elle dépend du navigateur qu'on utilise, elle dépend aussi du réseau que l'on est, et cela dépend également du type de résolveur DNS que l'on utilise et du type de navigateur qu'on utilise, ainsi que du type de serveur de courrier électronique dont on se sert. Tout cela est en rapport avec les clients et les serveurs de courrier électronique qui sont utilisés. Il s'agit donc d'aspects concernant la configuration et la mise en œuvre. Il est impossible de prévoir ce qui peut se passer. La raison pour laquelle la situation est celle qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que le domaine sans point, si quelqu'un utilise ce nom de domaine sans point, cela va à l'encontre de l'hypothèse selon laquelle les développements de logiciels selon laquelle donc un non-5-point se trouve dans le domaine de confiance d'une organisation, c'est-à-dire l'espace de non où l'on pourrait retrouver cette organisation. Et pour une analyse de virus qui soit liée à ce non-là. Ce qui se passe, c'est qu'il y a non seulement une question technique du point de vue de la ressource qui est utilisée pour y accéder, mais qu'il y a aussi des implications sur le fait de la confiance que l'on peut porter à cette source ou à ce service auquel on accède. Revenons une diapo en arrière. J'ai été un peu rapide. En plus, nous devons dire qu'en raison de l'existence de ce nom de domaine sans point et aux implications que cela a, c'est-à-dire que cela implique que l'on accède à un domaine qui est dans le domaine de la sphère de confiance locale, cela pose des problèmes au niveau de la sécurité, au niveau de l'adressage du trafic. Quelles en sont donc les recommandations ? Comme les domaines sans point ne seront pas accessibles universellement, et c'est ça que recommande qu'ils ne soient pas utilisés. Nous recommandons également que l'utilisation des registres de ressources de DNS qui peuvent être utilisés pour ce type de communication, tels que A, Quad A, MX, que l'on donc interdise cela en termes contractuels, et que l'utilisation soit interdite dans tous les cas. Voilà la conclusion de notre rapport. Il est très important qu'il soit clair quel est le processus dans les CAN utilisé pour des politiques et des documents dans ce sens. Nous avons fait notre rapport qui a été présenté au conseil d'administration. Le conseil d'administration a élaboré une résolution qui demande au personnel de consulter auprès des communautés pertinentes pour la mise en place des recommandations du SAC 053 pour fournir un rapport détaillant les questions politiques et légales dans ce domaine. Suite à cette résolution émise par le conseil d'administration, le personnel de l'ICANN a ouvert un forum public le 24 août de cette année. Il ne s'agit pas de SSAC, ça a été fait par le personnel de l'ICANN pour pouvoir répondre au conseil d'administration réponse. Cette période de commentaires est finie le 23 septembre, mais la période de réponse est encore ouverte et la date de clôture est le 5 novembre. Tel que tous les autres dans la communauté, SSAC, comme la période de réponse est encore ouverte, SSAC est en train de se pencher sur ces commentaires et envisage la possibilité de y répondre ou pas. Au niveau du SSAC, nous avons fait notre travail, mais d'autre part, nous ne savons pas si nous avons répondre ou pas, envoyer ou pas une réponse. Cette consultation publique est quelque chose qui a été mis en place par le personnel de l'ICANN pour pouvoir donner une réponse à ce qui leur a été demandé par le conseil d'administration. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, nous pouvons revenir aux questions que vous pourriez avoir sur les domaines sans point. Heather prend la parole. J'ai quelques demandes de prise de parole. Je n'ai pas très bien compris ce qui a mené le SSAC à analyser cette question. Il y a eu une proposition quelque part. Est-ce que cela est en rapport avec la mise en place ou la mise en œuvre des domaines sans point? C'est cela qui a éveillé l'intérêt par rapport à ce sujet. Patrick prend la parole. Quand nous avons commencé à travailler dans ce domaine, nous n'étions pas tout à fait conscients que l'on voulait vraiment se pencher sur cette question. On se posait des questions. Que se passe-t-il si l'on utilise un nom de domaine sans point? Moi, à titre personnel, ainsi que bien d'autres individus dans la communauté technique, on a dit, d'accord, on doit faire une recherche, mais on n'est pas sûr. Et au sein du SSAC, on a vu qu'il y avait des possibilités que l'on nous pose des questions par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'il fallait entamer une recherche pour nous avancer un petit peu à ces questions qui pourraient nous être posées. Voilà ce qui nous a impulsés. Heather donne la parole à la Suède et puis ce sera le tour de l'Italie. La Suède prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, Patrick, pour cette présentation sur les noms de domaines sans points. Moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Maintenant, je pense que j'ai une idée un peu plus claire sur ce que c'est après cette présentation. Merci beaucoup. Ma question est plutôt en rapport avec ce que Heather vient de dire. Pourquoi avez-vous commencé à analyser ces domaines sans point? Y avait-il des propositions de la part d'une certaine communauté pour retirer le point? Je pense que c'est comme une autre structure de DNS. En fait, je n'ai pas très bien saisi s'il y avait quelqu'un qui demandait à utiliser ces noms de TLD sans points ou pas. C'est quelque chose de bizarre, à mon avis. Patrick reprend la parole. Pour essayer de vous donner une réponse, je pourrais vous dire que si vous lisez le rapport, l'une des conclusions à laquelle on arrive, c'est que si un nom de domaine sans point était utilisé dans le DNS comme un lookup de DNS, comme une recherche de DNS, nous ne serions pas arrivés aux conclusions auxquelles nous sommes arrivés au sein du SSAC. Mais dans les applications que nous avons et dans les systèmes opérationnels que nous avons, un token n'est pas interprété comme un nom d'utilisateur. Ce n'est pas spécifique au DNS. Ce qui importe ici, c'est que le nom de domaine sans point n'arrive peut-être pas au DNS et ne devienne pas une recherche de DNS. Et au cas où on rechercherait le DNS, dans certains cas, ce n'est pas pour le nom sans point, mais pour une autre chose, un .com ou un autre nom qui puisse avoir un préfixe différent. Donc, dans le DNS, on chercherait plutôt autre chose, ce n'est pas les questions de DNS qui posent le plus grand nombre de problèmes. Heather donne la parole à l'Italie. L'Italie prend la parole. Une question très concrète. Il y a des propositions dans le secteur public. Pardon. Il y a des propositions de la part du secteur privé pour adopter ce nom de domaine sans point. Et cela rejoint un peu les questions qui ont été posées avant moi. Je voudrais savoir s'il y a eu une initiative du secteur privé pour utiliser ce type de nom de domaine sans point et dans quel but. Patrick reprend la parole. Ce que je vois quand je vous lis les commentaires, que vous pouvez tous lire d'ailleurs, c'est qu'il y a bien évidemment certaines parties qui sont intéressées à ces domaines sans point. Nous avons des CCTLD qui reconnaissent qu'il y a déjà des domaines sans point dans leur TLD. Et c'est pour ça qu'au sein du SSAC, il est important de faire ce rapport. Ce rapport a été créé de par lui-même pour que tout le monde puisse en tirer les conclusions pertinentes, aussi bien le personnel de l'ICANN que le conseil d'administration. La présidente prend la parole et donne la parole à la Grèce. La présidente dit qu'après l'intervention de la Grèce, on passera au point suivant. La Grèce reprend la parole. Merci Heather et merci Patrick pour cette présentation, certes très intéressante. J'ai en fait la même question à poser sur les noms de domaines sans point. Je voulais savoir pourquoi et ma réponse rejoint ce que tu viens de signaler. Quand on se pose la question de savoir s'il y a un besoin de ces domaines sans point, on se pose cette question. Il serait intéressant de faire circuler cette information dans notre liste de courriers. Patrick reprend la parole. Oui, toute la présentation de SSAC indépendamment du fait que l'on puisse passer en revue toutes les diapos ici, sera à votre disposition. En ce qui concerne le pourquoi nous nous sommes penchés sur cette question, je voudrais revenir sur notre méthode de travail au sein de CESAC. Quand nous travaillons, nous le faisons parce que nous avons reçu une question de la part du conseil d'administration, du comité consultatif, comme c'est le cas du GAC, pour les blocages de contenu. Mais SSAC est composé par des experts du point de vue technique venant du monde entier. Et ces experts peuvent se pencher sur différentes activités qu'ils constatent dans leurs environnements de travail. Et un déclencheur de notre travail. Et par exemple, lorsque la communauté technique, la presse spécialisée font référence à un sujet ou un thème et que nous n'avons pas de fondement technique solide qui puisse démontrer pourquoi certaines conclusions sont tirées par rapport à ces sujets soulevés par la presse ou par la presse spécialisée. C'est pour ça que certains sujets sont abordés par le SAC. Parfois, il s'agit que des rumeurs et on décide de ne pas se pencher sur ce type de thème. Et dans certains autres cas, nous pouvons émettre des rapports ou élaborer des rapports pour essayer de calmer les rumeurs. Dans ce cas en particulier, moi-même et d'autres membres du groupe avons considéré qu'il fallait justement faire taire les rumeurs, la rumeur qui circulait. Et ce sujet nous a surpris parce que la situation était pire que ce qu'on croyait. Nous avons donc décidé de nous pencher sur cette question et nous avons décidé qu'il fallait communiquer par rapport à ce sujet. Heather prend la parole. Merci d'avoir soulevé cette question devant nous. C'est vraiment très important que vous puissiez aborder ce sujet au moment même où il est soulevé, où il apparaît dans la communauté. Le prochain thème que je vois, c'est les impacts du blocage de contenu à travers le système de noms de domaine. Et cela concerne notamment les nouveaux GTLD et les TLD de façon générale. Et je crois que cette semaine, nous nous sommes concentrés au sein du GAC, nous sommes focalisés sur ce sujet au sein du GAC. J'aimerais que l'on puisse avancer, que tu puisses avancer avec ta présentation. Patrick reprend la parole. Merci, Heather. Quels sont les antécédents? En juin 2011, nous avons publié un document sur le blocage de DNS suite à une demande de la part du GAC. Excusez-moi, c'était SAC 050 et non pas SAC 051. Nous allons changer cette erreur. Nous allons vérifier donc les numéros du SAC avant que vous receviez les copies de cette présentation. En tout cas, c'était un document de 2 pages qui abordait les bénéfices du blocage du DNS vis-à-vis des difficultés. Et on disait que avant d'utiliser un blocage de DNS, il fallait, nous recommandions de faire un calcul des dommages ou des désavantages de faire un tel blocage par rapport aux bénéfices. C'est le SAC 50 qui parle du blocage et non pas le SAC 51. Il y a une erreur sur le transparent. Lorsqu'on a présenté ce document au GAC, nous avons reçu des questions de la part des membres du GAC qui nous demandaient à préciser un peu plus cette question car ils ne pouvaient pas faire ce calcul. Donc en 2012, il y a quelques mois, nous avons créé un groupe de travail afin de mieux conseiller sur les impacts de ce type de blocage, pour essayer d'être plus clair. Et vendredi dernier, nous avons publié le SAC 056. C'est un rapport détaillé sur tout ce qui a trait au blocage de DNS. Très brièvement, ce rapport dit que le blocage de DNS est un sujet de grand intérêt qui est débattu dans différents environnements de gouvernance d'Internet. Nous pouvons voir, constater qu'il y a plusieurs gouvernements qui ont mis en œuvre le blocage de DNS ou qui envisagent de le mettre en place. Comme nous l'avons dit dans le rapport original, nous disons dans ce rapport que cela peut être éviter très facilement, que cela peut ne pas être efficace et que des conséquences imprévues peuvent être prévues peuvent se produire dans l'avenir. Cela pourrait promouvoir une sous-division d'Internet dans deux groupes séparés. Donc, où se focalise le Conseil ? Analyser quel est l'impact technique du blocage de DNS en fonction de savoir si ce blocage se fait par le biais d'un bureau d'enregistrement à travers un serveur faisant autorité ou bien un résolveur par le biais de l'adressage du nom de domaine. On veut dire qu'un impact est différent en fonction de d'où provient la demande de blocage, à qui cette demande est adressée et à qui on demande de faire le blocage.
Nous voulons également diviser tout cela en catégories techniques. Nous avons le conflit avec le DNSSEC. Peut-être faudrait-il refaire un surblocage, c'est-à-dire si on veut bloquer un nom de domaine, peut-être on peut bloquer autre chose qu'il ne faudrait pas bloquer. Hein. Des erreurs de typographie au sein du système de blocage qui a trait à une organisation A et une organisation B. Si l'on demande de bloquer quelque chose, comment on sait que l'organisation A n'a pas fait d'erreur de frappe dans le courriel où l'on demande le blocage. Aussi, il faut tenir compte des questions concernant le routage du trafic du DNS par une autre voie. Il y a plusieurs mécanismes pour éviter cela. L'impact des résolveurs de connotation des utilisateurs parce qu'ils peuvent bloquer un ISP local ou des résolveurs dans une autre section. Ou bien l'impact dans les réseaux de distribution de contenu et leurs fonctionnalités, parce que bien des fois, on peut mettre le contenu le plus près possible de l'utilisateur, mais à vrai dire, le rapport dit qu'en réalité, le contenu utilisé va près du résolveur. Donc, il y a quelqu'un de la juridiction A qui utilise un résolveur de la juridiction B, peut-être. Existe-t-il un réseau de distribution de contenu dans l'organisation B? Et voilà une des conséquences possibles. Pour illustrer de quoi on parle, vous voyez une image où tout simplement on explique le fonctionnement du DNS. Pour comprendre ce qui arrive avec le blocage, il est important que les parties concernées comprennent que lorsque l'on élimine le DNS pour la raison que ce soit, ce n'est pas quelque chose dans mon ordinateur en parlant avec le serveur du DNS singulier. C'est en tout cas mon ordinateur qui se communique avec un résolveur, c'est-à-dire l'ordinateur du milieu, et puis après une demande qui se communique avec le serveur racine qui revient parce qu'il y a une demande d'information qui va de l'ordinateur de droite, par exemple le serveur de .com, et ceci dérive dans un serveur de nom de domaine. Dans ce cas, nous avons quatre serveurs de nom de domaine. Et puis après, on revient au client. Il y a beaucoup de parties concernées. Voilà donc pourquoi le blocage peut arriver dans toutes ces différentes postes, soi-disant. L'effet du blocage sera différent suivant le résolveur. Pour conclure, le blocage du DNS a plusieurs problèmes techniques. Le premier exemple, si l'on demande au registre du DNS le registre ou le bureau d'enregistrement peuvent bloquer le nom de domaine d'une manière ou d'une autre. Alors, la conclusion est la suivante. ceci est les conséquences techniques les plus faibles et cela peut fonctionner avec DNSSEC, mais cela peut créer des problèmes vis-à-vis des problèmes de juridiction ou les parties concernées, si l'on parle de registre, registrant et bureau d'enregistrement. Tout cela pourrait créer une segmentation à long terme de l'espace Internet. Si on fait le blocage au nom du résolveur, cela est aussi problématique si l'on voit le DNSSEC. Et cela pourrait empêcher le déploiement du DNSSEC, à savoir une technologie dont nous avons besoin pour différentes raisons. Notamment parce qu'il crée le DNSSEC, construit la sécurité des pages web. Les gouvernements et d'autres doivent donc prendre toutes ces questions en considération et comprendre quelles sont les conséquences techniques du développement de politiques et de mise en place en utilisant le DNS pour bloquer ou filtrer le contenu d'Internet. Et voilà, j'ai donc fini. Vous avez des questions sur cette présentation? Heather, merci Patrick. Une présentation vraiment intéressante. L'Italie prend la parole. Merci. Merci beaucoup, SSAC, de votre rapport. Si l'on regarde surtout les nouveaux GTLD, nous avons un problème similaire lors de l'approbation du domaine 3x. Au sein du GAC, nous avons beaucoup parlé du blocage parce que beaucoup parmi nos gouvernements ont dit que si nous n'aimions pas ce nouveau registre, on allait le bloquer. Ce rapport est très important parce qu'il nous explique, nous en premier lieu, et nous devrions peut-être transmettre l'information à nos gouvernements qui vont commencer à considérer le blocage des 1900 nouveaux GTLD en disant, eh bien, nous allons bloquer 10 ou 20. Mais il est très important d'identifier ces problèmes et ces difficultés qui sont si bien expliquées. Nous pouvons facilement être bloqués et peut-être faire face à ce genre de problème. Le DNSSEC est un instrument fondamental pour la sécurité du réseau. De sorte que quelques-uns parmi les gouvernements qui considèrent des problèmes de sécurité doivent tenir compte de tout cela parce que pour faciliter le blocage, ils vont devoir décider de ne pas adopter le DNSSEC. Et le DNSSEC est quelque chose de très, très important. Et sa non-adoption pourrait entraîner des conséquences. Il est important de le comprendre et de l'étudier pour considérer tous les problèmes liés à l'approbation des nouveaux GTLD. Nous pourrions peut-être prévoir que certaines parmi les candidatures présentent des problèmes pour les pays intéressés. Merci. L'Italie, dit Heather, j'ai la Suède et puis le Royaume-Uni. La Suède. Merci, Patrick, de ta présentation si stricte et si directe sur la question du blocage. Merci, merci beaucoup. J'ai une question et je ne sais pas quelle en sera ta réponse, mais je vais la poser quand même. Combien de blocages y a-t-il aujourd'hui? Comment voit-on le panorama du blocage dans le monde à ce jour? C'est une question très intéressante, dit Patrick, parce que le fait de savoir quand est-ce que l'on fait un blocage de nom ne veut pas dire que l'on connaisse combien il y en a. Il y a des gens qui essaient de calculer quel est le nombre de blocages, mais le rapport des blocages réel est ce que j'appelle insuffisant. Dans notre rapport, il y a plusieurs exemples, mais les données sur les blocages réels sont vraiment très, très limitées. Au sein de SSAC, nous essayons donc de voir s'il est possible d'avoir différentes parties capables d'informer sur les blocages effectivement réalisés. Je ne parle pas au nom de SSAC en ce moment. Moi, personnellement, je crois que le blocage du DNS utilisé dans le monde est plus faible que ce que l'on pense. D'autre part, je vois que le blocage des noms de domaine arrive lorsqu'en réalité, les gens sont intéressés à bloquer des services. Et l'un des problèmes pour lesquels SSAC a créé ce rapport, et que ce rapport a été fait de la manière dont il a été fait, c'est que le blocage d'accès aux services utilisant le DNS n'est pas un outil efficace. Malheureusement, ce que je peux percevoir, c'est que le monde est intéressé à bloquer le DNS lorsqu'en général, les gens sont intéressés à d'autres choses. Merci beaucoup, dit la présidente. Merci de ta réponse. Le Royaume-Uni prend la parole. Merci, Madame la présidente. Merci, Patrick, d'avoir présenté ce document. J'ai pu le lire très rapidement, j'avoue. Mais je vais le prendre avec moi et je vais le passer à mon conseiller technique. Pour voir s'il donne son soutien à mon interprétation de ce document sur les dommages et les bénéfices. Et tu viens de dire c'est un outil qui n'est pas efficace. Le message serait donc de ne pas le faire, hein, le message au gouvernement et à d'autres. Et je ne suis pas très sûre de ce que autre veut dire dans le rapport. Peut-être sur le document, ce sera plus détaillé. Mais tes commentaires sur le recueil de données m'intéressent beaucoup et je pense comment transmettre cela, comment aller de l'avant. Je ne sais pas s'il existe un guide de meilleures pratiques sur le blocage. Si l'on fait un blocage ou si on sait, on connaît un blocage, faut-il l'informer à l'ICANN ou pas? Je crois que tu viens de signaler quelque chose de très important pour comprendre clairement ce qui arrive. La non-mise en place du DNSSEC est un élément clé parce que nous voulons que le DNSSEC soit mis en place dans tout le système. Je voulais savoir, c'est-à-dire, on a mentionné le blocage du point 3x. Tu connais, tu as quelque chose à dire là-dessus? J'aimerais bien t'entendre parler, mais comme je viens de dire, le document est très utile et je vais l'amener avec moi pour que quelqu'un avec plus de connaissances techniques puisse le lire. Et peut-être des collègues qui sont ici feront la même chose pour mieux comprendre certaines questions et peut-être évaluer la manière de continuer de l'avant. Si ce n'est pas un guide de meilleures pratiques, enfin des guides, enfin. Merci beaucoup. Merci, dit Heather. Inde, Espagne, Pays-Bas. Et puis, nous pouvons passer au dernier point de l'ordre du jour pour aujourd'hui. C'est l'Inde qui prend la parole. Merci, Madame la Présidente. En premier lieu, je remercie Monsieur Patrick de son rapport qui a été vraiment très, très clair, très exhaustif sur le blocage du DNS. Dans les pays en développement, nous faisons face à ce genre de problème, à savoir quels en sont les bénéfices et les dommages du blocage et que peut-il en résulter efficace ou non. Le blocage du DNS, tel que vous l'avez mentionné, n'aide pas, n'est pas bon. Mais s'il y a des contenus qui doivent être bloqués, alors là, quelle est la meilleure manière de le faire? Que peuvent faire les gouvernements dans ce cas-là? J'aimerais bien savoir ça. Merci beaucoup. Patrick prend la parole. Avant d'oublier les questions, j'ai demandé la permission à Madame la Présidente pour répondre au Royaume-Uni sur le point 3x. Eh bien, nous avons analysé et nous avons cherché des preuves concrètes de blocage à ce domaine, mais nous ne l'avons pas trouvé. C'est une demande à la communauté. Si ce blocage existe, nous vous prions de l'informer. Nous essayons aussi d'encourager la société civile et d'autres types d'organisations qui travaillent pour trouver des solutions techniques pour éviter ces blocages, de développer non seulement les outils, mais de publier plus clairement quels sont les moyens dont ils disposent. Pourquoi ils inventent tous ces détours pour éviter justement le blocage? Et pour ce qui est de la question de l'Inde, ce qui peut arriver au lieu d'utiliser le DNS, la manière la plus efficace de clôturer un service, c'est justement le fermer, le clôturer. L'une des choses les plus efficaces et qui fonctionne vraiment comme coopération entre plusieurs pays et entre plusieurs organisations, c'est ce que l'on essaie de faire à ce jour et on essaie d'arrêter quelque chose. Donc, on a besoin de plus de coopération. C'est toujours mieux d'avoir plus de coopération et c'est ce que nous mentionnons dans notre rapport. Il est important de faire le blocage avec le registre et pas avec les ISP. Et cela nécessite plus de coopération et un meilleur processus pour faire le blocage. Le dernier point auquel je veux répondre, c'est que si l'on veut bloquer l'accès à un service, il faut bloquer l'accès au service et pas le domaine lui-même. Et il y a différents mécanismes pour ce faire.
Merci beaucoup. L'Espagne à la parole, et puis les Pays-Bas. L'Espagne prend la parole. Bonjour, je vais parler en espagnol, si c'est possible. Bonjour à tous, et merci beaucoup, Patrick Falston, pour cette présentation. J'ai déjà envoyé le texte que vous nous avez donné à mon secrétariat d'État des communications, car il s'agit certainement de l'un des sujets qui inquiète le plus notre ministère. En ce qui concerne le niveau auquel ces décisions sont prises, il me faut dire qu'en Espagne, il y a eu des cas de blocage de contenu par le biais du DNS et pour la plupart de ces cas, ça s'est fait par le biais de l'action des ISP, c'est-à-dire des fournisseurs de services Internet. Je ne crois pas qu'il y ait eu des cas où des bureaux d'enregistrement ou des registres étaient impliqués, car dans la plupart des cas, il s'agit de noms de domaine.com qui ne sont pas sous notre juridiction. Les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès à Internet sont très inquiets en Espagne de par l'accroissement des demandes de DNS. Nous avons le cas de la protection des droits de propriété intellectuelle. Nous avons aussi le cas des jeux. C'est l'un des domaines les plus réglementés dans notre pays, mais malheureusement, il y a une certaine tendance à établir des obligations au niveau des lois, des obligations de coopération entre les fournisseurs de services Internet pour bloquer des contenus. Et tout ce que vous nous avez commenté a déjà été commenté par les fournisseurs d'Internet, dans le sens où il s'agit vraiment d'une lourde charge de pouvoir prendre en charge toutes ces demandes. Et pour poursuivre un petit peu dans la ligne de ce que le représentant de l'Inde vient de dire, le problème auquel nous sommes confrontés en Espagne, c'est que une grande partie des pages web doivent être retirées par des décisions juridiques, des décisions du juge. Et parfois, c'est en dehors de nos frontières. Et nous devons avoir recours à cette méthode de façon conservatoire. C'était donc des points que je voulais soulever, dont je voulais parler devant vous tous et vous remercier pour cette présentation et pour le document que vous nous avez fait parvenir. Merci beaucoup. La présidente prend la parole. Merci l'Espagne pour ses commentaires et passe la parole aux Pays-Unis, aux Pays-Bas, pardon. Les Pays-Bas prennent la parole. Merci Patrick pour ce rapport qui était vraiment très précis par rapport aux bénéfices et aux désavantages de ce méthode de blocage. Nous avons entendu toutes les inquiétudes par rapport à cette question du blocage. Pour savoir s'il existe seulement quelques types de blocages qui sont bénéfiques. Et je rejoins ce qui a été dit par le Royaume-Uni. Dans le sens où il faudrait envoyer des signes pour le monde extérieur, peut-être un communiqué pour pouvoir en discuter davantage à Beijing. Car en ce moment, nous sommes face à des informations qui nous arrivent, mais nous n'avons pas encore pu donner les recommandations ou l'avis nécessaire au conseil d'administration par rapport à cette question du blocage. Tout comme le Royaume-Uni, j'aimerais dire qu'il faut faire passer le message que nous décourageons le blocage au niveau des pays, au moins du point de vue des Pays-Bas. Je pense qu'on doit décourager l'utilisation des blocages et c'est un message à faire passer vers le monde extérieur. D'autre part, nous devrions élargir l'utilisation de certains outils aux pays qui ont des réglementations nationales qui empêchent l'accès aux services afin qu'ils puissent utiliser certains types de blocages en dernier ressort. L'Inde nous rejoint dans cette réflexion. Il y a beaucoup de complications et on se dit il faut voir le registre et essayer de résoudre cette question au niveau du registre. C'est un peu ce que pense l'Espagne car il existe plusieurs juridictions. Voilà ma proposition pour que le GAC puisse faire passer un message dans un communiqué ou dans ces débats. Du point de vue des Pays-Bas, je soutiens la notion du fait que le blocage ne doit être utilisé qu'au niveau du service, c'est-à-dire que si un service est utilisé de façon incorrecte ou frauduleuse, il y a tout un ensemble de noms de domaine qui n'ont pas été considérés au niveau de leur contenu. Et donc, le blocage du DNS, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable, au moins au niveau du DNS. La présidente reprend la parole. Merci les Pays-Bas. Il y a plusieurs fondement à cette proposition que vous faites. Et je pense que les membres du GAC ont différentes visions par rapport à ce sujet dans différentes juridictions. Je remercie l'Espagne de nous avoir commenté son expérience par rapport à cette question. Et c'est très intéressant que les collègues puissent s'exprimer par rapport à cette question. Y a-t-il d'autres commentaires, Patrick, que vous vouliez faire, ou peut-on passer à l'autre point de notre ordre du jour? C'est un oui. Nous avons une quinzaine de minutes. Et nous allons donc maintenant voir le rapport final de l'équipe de révision de politique du OIS. Jim Galvin prend la parole. Nous allons passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. L'équipe de révision du OIS a présenté son rapport final dans la recommandation à l'ICANN au mois de mai, et le conseil d'administration a demandé à OSCSAC ainsi qu'à tous les SO et AC à faire des commentaires finaux par rapport à cette question. Les commentaires ont été publiés au mois de septembre. La partie la plus importante que l'on peut, l'enseignement le plus important que l'on peut tirer, c'est qu'on voulait une recommandation malgré le fait que le SSAC soutient toutes les recommandations de l'équipe de révision. Nous croyons qu'il y a une action que la communauté de l'ICANN doit mettre en place face au progrès de ces recommandations. Et cela consiste à comprendre très clairement quel est l'objectif de l'enregistrement de données des noms de domaine. En réalité, il ne s'agit pas d'un point documenté de l'industrie de noms de domaine. Nous avons avancé en quelque sorte sur la base d'un système de hypothèses. Je pense qu'il y a un accord sur le fait de savoir quel est l'objectif de l'enregistrement de données, mais sans une déclaration du commenté par rapport à la raison pour laquelle nous collectons des données et les objectifs de ces données. C'est ce qu'il nous faut pour comprendre quelles sont les données qu'il faut collecter. Et jusqu'à ce que l'on puisse comprendre précisément ce que l'on veut faire avec cela, il nous faudra encore travailler dans ce sens. C'est pour ça qu'il faut travailler sur tout ce qu'implique la sauvegarde de données. Il nous faut faire des recommandations pour comprendre qu'il s'agit d'un premier pas vers un travail futur sur le OIS, les données d'enregistrement et toutes les questions qui peuvent être liées à l'accès à ces données. Je suis prêt à répondre à vos questions par rapport à cette question. De façon explicite, nous suggérons qu'il doit y avoir un comité, il doit se créer un comité pour analyser ces questions et y apporter une réponse. Nous croyons que les réponses à ces questions vont encourager la création d'une politique universelle qui fera partie des recommandations de l'équipe du OIS. Nous croyons également que cette activité doit être complétée avant que d'autres activités progressent dans ce sens. Diapo suivante. Il s'agit d'une déclaration très claire où nous considérons. Bon, voilà tout ce que j'ai déjà dit, qui concerne tout ce que j'ai déjà dit. Et le reste des diapos nous montre une déclaration de nos commentaires en particulier sur chacune des recommandations faites par l'équipe de révision du OIS. Tout d'abord, je dois dire que nous avons divisé les recommandations en trois priorités. La priorité de haut niveau, moyen niveau et de faible niveau. Pourquoi nous les avons divisées de cette manière? Nous voulions exprimer le fait que certaines recommandations dépendaient d'autres recommandations. C'est pour ça que les recommandations de haut niveau doivent être précédées par la mise en œuvre d'autres recommandations. Et bien sûr, les recommandations de moyen niveau font leur contribution pour les recommandations de faible niveau. Le but n'est pas de suggérer un certain ordre dans le travail, mais plutôt un ordre pour finaliser ce travail. Un ordre pour le début, bien sûr, il faut commencer par les recommandations de haute priorité, mais on peut également commencer par les recommandations de niveau moyen. Ce qui importe ici, c'est que les recommandations qui ont la plus grande priorité puissent être complétées avant les autres recommandations. Nous ne voulons pas être très prescriptifs quant à la façon de mettre en place le travail. Je pourrais analyser point par point, mais j'aimerais plutôt m'arrêter à un moment donné et dire que nous soutenons les recommandations en général de l'équipe de révision du RUIS. Nous avons fait quelques suggestions en ce qui concerne la façon dont elles pourraient être modifiées. Et nous allons avancer dans ce sens. Merci beaucoup. Même la présidente prend la parole. Vous savez que le GAC soutient les recommandations de l'équipe de révision du RUIS. Nous n'avons pas encore identifié quelles en sont les priorités, mais je pense que l'on devrait peut-être identifier certaines priorités et nous allons devoir voir quelles seront celles qui devront être mises en place avant les autres. En ce qui concerne le premier point sur la précision des objectifs du RUIS, et pour travailler à partir de cette précision, je me souviens que le GAC, dans ses débuts, si l'on pense il y a 5 ans, avec l'introduction du RUIS, le GAC a reconnu qu'il y a eu une utilisation légitime, et ceci dans un but plutôt technique. Nous pouvons aussi nous souvenir d'autres commentaires qui ont été donnés dans ce sens. Tout cela figure dans les documents du GAC. Et il est très intéressant que l'on propose la création d'un comité qui puisse se pencher sur ces questions. Et ce qui est implicite dans cette recommandation, c'est que cela a évité que ce PDP soit couronné de succès. Et c'est pour ça qu'il faut voir quel est l'objectif et quelle sera l'évolution du RUIS. Ce sera difficile d'arriver à une conclusion et en même temps mettre en œuvre les recommandations de l'équipe de révision du RUIS. J'aimerais... Jeff Moss prend la parole. Vous avez évoqué la recommandation de créer de voir quel est l'objectif de l'enregistrement et cela implique de séparer l'accès de la collecte de données. Il est très important de faire cette différence et comprendre cette différence. L'objectif de notre recommandation est de nous focaliser sur la collecte de données d'enregistrement. Et c'est pour cela qu'il nous faut savoir pourquoi nous voulons collecter ces informations et ce que nous voulons faire avec ces collectes de données. Il y a une activité technique qui est vraiment très technique et qui pourrait être complètement séparée de tous les aspects concernant l'accès aux informations. Cela pourrait faire l'objet d'un processus d'élaboration de politique. Mais une fois que l'on connaît quelles sont les données que l'on possède, c'est à ce moment-là qu'on peut faire un pas en arrière et considérer le fait que l'on peut utiliser un processus de développement de politique pour aborder cette question et voir s'il nous faut d'autres informations et une autre façon d'aborder cette question et de séparer donc la collecte de données de l'accès aux informations. La présidente reprend la parole. Merci. La Commission européenne prend la parole. La Commission européenne prend la parole. Le Portugal était avant moi, mais j'aimerais attirer l'attention sur les normes européennes sur la privacité et la protection de données. Tel que vous le savez, il y a plusieurs questions liées à ces données et je voudrais attirer votre attention sur ce contexte. L'un des problèmes que nous avons rencontrés avec l'article 29 concerne ce qui est publié dans le réseau et quelles sont les données qui figurent dans le quiz? Bien sûr, c'est un problème pour l'Union européenne, car toute donnée qui existe doit être proportionnelle aux données qui sont gardées. Heather Dryden reprend la parole. Merci. Cela me rappelle que ces données sont collectées dans le contexte de l'accord d'accréditation de données et qu'il existe aussi des négociations pour que les membres du GAC puissent faire des commentaires par rapport à ces sujets tels que la collecte de données ou la retention de données. Jim Calvin prend la parole. J'aimerais mettre l'accent encore une fois sur la différence entre la collecte de données et l'accès aux données, car je pense que cela permet de répondre à certaines des inquiétudes, notamment en ce qui concerne la privacité et la retention de données. Je tenais à mettre l'accent sur ce point. Heather reprend la parole et donne la parole au Portugal. Le Portugal. Je vais parler en portugais.
Je voulais intervenir pour donner le soutien à ce que Calvin a mentionné et signaler que la grande différence entre la collecte et l'accès, parce que le fait de collecter est une question technique, la collecte de données est une question technique que l'on doit faire. Une autre question ayant trait à la politique, et peut-être nous entrons là dans la question la plus sensible, mais qui peut résoudre beaucoup de problèmes, c'est qui peut avoir accès aux informations collectées. Il s'agit là d'une question politique qui peut être facilement résolue et peut-être de cette manière dépasser les problèmes ou trouver une solution aux problèmes qui puissent se présenter. Merci beaucoup. Heather reprend la parole. Eh bien, nous arrivons à notre pause café. Les États-Unis demandent la parole. Merci, Madame la Présidente, et merci, Jim et Patrick, du rapport si utile. Je crois que vous avez déjà présenté les questions que je pensais présenter moi-même, parce que nous, comme nous débattons le RAA, suivant votre réponse au Conseil pour voir si l'on crée une entité ou une comité pour aborder ces questions, nous devons peut-être penser à imposer une nouvelle définition dont il faudra tenir compte dans nos contrats. Je voulais vous rappeler cela au GAC. Et comme membre du GAC, nous devons aider à la coordination de tous ceux ayant trait au travail des associations de protection, des organismes chargés de l'application de la loi et de nous occuper de la coordination dans nos pays. Mais il faut tenir compte de la différence entre la collecte et l'accès de données. Et je voudrais savoir, vous avez abordé ici la question, je ne sais pas si on l'appelle le CRISP ou IRIS du standard technique pour offrir un format standardisé pour les types de données, pour voir qui peut accéder à ces données. Je voudrais savoir cela, même si je peux lire le rapport en entier. Dans ce rapport, nous n'avons pas présenté cette information des GIMP. Je crois que dans le SAC 54, il y avait le modèle d'enregistrement de données. Heather reprend la parole. Merci. Ce serait peut-être utile pour nous de savoir quels sont les rapports disponibles liés à ce sujet, parce qu'il y en a deux qui semblent être très intéressants pour nous et qui sont disponibles pour les membres du GAC. Après la pause café, nous allons parler de l'accord d'enregistrement, quel est l'état actuel des négociations et quelle est la demande faite aux membres du GAC pour avoir leur avis sur les questions surgissant comme résultat des négociations des contrats. Nous allons pouvoir nous préparer un tout petit peu avant cette réunion. Merci beaucoup de votre présentation. Merci à vous deux. Nos sessions avec le LSSAC sont toujours très utiles. Nous recevons beaucoup d'informations. Merci, Heather. Dit Patrick, je tiens à dire que moi et d'autres membres du LSSAC présents dans la salle, nous tenons à vous remercier de l'occasion d'avoir présenté ce rapport. L'interaction est très utile pour notre travail et nous recevons de très bons commentaires de votre part. Nous espérons donc pouvoir continuer avec cette coopération. La présidente dit merci beaucoup pour... C'est-à-dire, nous avons une pause café maintenant et à 11h30, on se retrouve dans cette même salle. Il y a des questions que vous pourrez traiter. Et je vous demande que pendant la pause café, je vous demande de me signaler ce qu'il faut faire par rapport au texte. Pour ce qui est de la déclaration, et Ginny, je vous demande de donner votre présence à Ginny pour savoir qui a participé de la réunion. Merci beaucoup.